Tribu, Catherine Erard.
Disperser les cendres de grand-papa sur la montagne qu'il aimait tant, ou les mettre dans une urne biodégradable avec des graines pour qu'ils se métamorphosent en arbres, ou encore sertir les cendres de sa tendre moitié pour en faire un diamant. Les nouveaux rituels autour de la mort se développent, à tel point qu'une célébration religieuse où l'on n'écoute pas le Paradis blanc de Michel Berger, ni le beau poème de la petite Valentine, mais uniquement l'orgue et le sermon, et tout cela sans passer par la case crémation, eh bien c'est aujourd'hui devenu une exception. Technologie oblige, de nouvelles questions se posent également. Que faire avec le compte Facebook du défunt et que répondre à tous les amis éplorés qui s'adressent encore à lui sans se transformer pour autant en une voix venue de l'au-delà? Alors on invente, on bricole et parfois on est un peu paumé. Pourquoi ne peut-on plus se reposer, se couler comme autrefois sur des rituels qui réunissent la communauté et qui apaisent dans ces moments douloureux? Que faut-il finalement pour qu'un rite nous parle, nous aide, nous soutienne? Du 31 octobre au 3 novembre prochain va se tenir à Lausanne le Toussaint Festival, dont j'ai le plaisir de recevoir une des organisatrices, Alix Noble-Burnan. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes formatrice d'adultes, conteuse et thanatologue. Alors en deux mots, c'est quoi une thanatologue?
C'est un tout nouveau, ça vient de sortir, c'est un tout nouveau métier, enfin, il a, que je porte fièrement. Thanatologue, thanatos, c'est le dieu de la mort en Grèce, et puis logue, c'est celui qui parle de tout ça.
Qui parle,
voilà, hein. C'est ça. Donc c'est une espèce de profession qui fait qu'on est spécialiste de rien, c'est-à-dire que je suis pas historienne, je suis pas théologienne, je suis pas philosophe, mais au fond, je dois pouvoir un peu parler de tout ce qui a trait à la question de la mort, justement.
Alors, commençons par évoquer quelques-uns de ces nouveaux rituels. Mmh. La photographie post-mortem, le fait de prendre des morts en photo,
oui.
Il paraît que ça revient.
Oui, ça choque beaucoup aujourd'hui. On a l'impression
c'est
que c'est quelque chose d'horrible.
Hein.
Ouais. Comme si on était un peu voyeur et puis macabre, comme ça. Alors qu'en fait, ça se faisait énormément. Les photos de morts, tout le monde faisait tirer le portrait du défunt. Et puis avant que la photo n'existe, on en faisait des tableaux ou on en faisait des bustes. Enfin, dès que la personne était morte, on prenait cette une espèce d'instantané, que ce soit au travers de la peinture ou de la sculpture. Puis maintenant, c'est la photo. Enfin, maintenant. Et c'était la photo. Et en fait, c'est en train de revenir. Mais ça provoque beaucoup de choses. Ça fait réagir beaucoup, beaucoup. Hein.
Quel est l'intérêt de cette pratique?
Alors, l'intérêt de cette pratique, il va falloir voir dans quelle mesure elle peut s'installer. C'est vrai que ça permet deux choses. Ça permet de garder un souvenir d'un moment quand même extrêmement précis, et puis ça permet de savoir, alors c'est là que c'est très délicat, mais ça permet de savoir que l'autre est vraiment mort. Derrière la photographie du défunt, il y a toute la relation qu'on a avec le corps mort, qui est une relation très 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 délicate aujourd'hui. On n'a plus du tout envie de voir le corps qui est mort. Il y a une évacuation complète du corps du mort. Et je pense que ça, c'est questionnable. Du coup, la photo peut permettre ça. Mais bon, on débute, hein. Virginie débute et il va falloir voir ce qu'elle arrive à mettre sur pied par rapport à ça.
Virginie
Rebété, qui est celle qui propose justement ces photos, je peux pas dire post-mortem, mais de mortem.
En préparant cette émission, j'ai aussi regardé justement ce qui existait déjà et j'ai vu que des jeunes aujourd'hui qui ont tellement leur smartphone à portée de main, prennent aussi des photos dans des enterrements, y compris des selfies avec des morts. Alors là, on se dit, c'est quand
alors
même
là,
assez
c'est,
glauque. Hein.
Oui, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que cette génération des jeunes a été complètement privée d'expérience avec des morts. Et que du coup, retirer l'expérience avec un mort, fait que immédiatement on file sur l'imaginaire et sur le... C'est quelque chose qui n'est pas du tout contenu. Comme c'est pas du tout organisé, ils font comme ils peuvent pour pouvoir pallier ce manque complet. Ils ont besoin d'être confrontés à la mort d'une façon saine, avec une expérience et pas dans l'imaginaire. Donc du coup, pour eux, il y a une espèce de mi-jeu, mi-tos-tos-pas, t'es capté.
Voilà. Il y a aussi tout ce qui se développe autour des cendres du défunt. En Suisse, on est un pays... quasiment champion de la crémation. Hein,
oui.
Et on a l'impression que là aussi, beaucoup de nos concitoyens inventent de nouveaux rites, comme si ces columbariums un peu austères ne répondaient pas vraiment à ce qu'on attend.
Alors, je suis pas sûre qu'il y a tellement d'inventions. On parle beaucoup, par exemple, des diamants.
C'est anecdotique.
Bah, ouais, c'est l'humusation, la promession, enfin, toutes ces traitements font beaucoup, sont assez croustillants, parce qu'on connaît pas, etc. Mais en fait, ça se fait pas. Donc, le problème des cendres, c'est vrai que c'est un énorme problème, c'est qu'une fois qu'on pense avoir résolu le problème du corps, comme on n'a plus du tout envie de voir le corps, du coup la crémation permet de résoudre cette histoire-là, mais du coup après on se retrouve avec les cendres et on ne sait pas qu'en faire. Donc c'est comme si on déplaçait le problème. Et les cendres, beaucoup de gens ne vont pas les chercher, donc elles vont rester chez les pompes funèbres. Et moi j'assiste à beaucoup de gens, enfin j'ai beaucoup de suivi de deuil où les gens ne vont pas, ne déposent pas ces cendres. Donc du coup ça fait un défunt qui reste. Et on résout un petit bout du problème, mais on en soulève d'autres, vraiment, qui sont compliqués.
Et puis, il y a les questions des comptes Facebook, Instagram, etc. Je lisais ce chiffre assez impressionnant. En 2065, il y aura plus de morts que de vivants sur Facebook. Ça va être un grand cimetière virtuel. Là aussi, on est assez désarmé face à ça.
Alors, on est très désarmé parce qu'on ne connaît pas les numéros de compte, on ne sait pas comment les arrêter. Alors, il y a ceux qui aimeraient bien pouvoir arrêter et puis cesser, fermer ces comptes. Et puis, il y a ceux qui les entretiennent, des endeuillés qui entretiennent les comptes de leurs défunts.
Ça veut dire qu'ils continuent à poster des choses.
Exactement. Et puis, les amis continuent. Ce qui est très désagréable, c'est toute proportion gardée. C'est un peu comme des cendres qu'on ne dépose pas. Le compte Facebook pas fermé, c'est un mort qui continue à exister. Donc quelque part, d'une certaine façon, le deuil ne se vit pas. Du coup, c'est pour ça qu'on a travaillé avec des gens comme To You, cette start-up qui s'occupe de tout ce qui est données numériques, données bancaires, etc. Et ça vaut vraiment la peine. Alors c'est pas un coup de pub, mais ça vaut vraiment la peine d'aller préparer 2-3 choses chez eux, ne serait-ce que pour me confronter à ma propre mort qui va arriver. J'espère que c'est pas une mauvaise nouvelle pour vous, chère Catherine, mais il se trouve qu'un jour ça se passera. Donc qui va s'occuper de tout ça? Comment est-ce que vos proches vont faire avec vos comptes bancaires, avec votre compte Facebook, avec vos mots de passe, etc. Donc au fond, cette équipe-là s'occupe de toutes ces données numériques et eux les gardent. Enfin, il faut voir avec eux comment ils font.
Et donc on va remettre ces identifiants, etc. Pour que si en sortant d'ici vous avez un malheur qui se passe,
votre famille peut être, vos proches peuvent se débrouiller. Oui.
Alix Nob-Burnand, en vous écoutant, j'ai l'impression que un mauvais rite, c'est celui qui permet pas justement de réaliser que le mort, il est mort.
C'est pas tellement réalisé. Alors c'est vrai que le rite permet, je sais pas s'il permet de comprendre, mais comme il propose de faire, on va faire des choses qui sont, comment est-ce qu'on peut dire ça? C'est pas que la pensée qui est qui est mise en œuvre à l'occasion de la mort. Il y a le corps aussi. Et au fond, ce que le rite propose, c'est une expérience corporelle. C'est ça qui est tellement important à piger. Donc une fois que c'est fait, c'est fait. Voilà, c'est ça. Et puis le problème par rapport au rite, c'est qu'aujourd'hui, on est tellement lié à comment je me sens et tout, que du coup, je vais faire comment je me sens quand je suis en deuil. Du coup, ce que je sens, c'est maintenant. Donc, je vais mettre en place 2-3 choses liées à une espèce d'instinct ou de réflexe. Mais dans 2 mois, dans 3 mois, dans 4 mois ou dans 2 ans, au fond, ça sera très branlant tout ça.
C'est comme pour si ça on prenait en compte que les émotions du moment,
l'instant.
Sans faire quelque chose qui va clore une certaine étape.
C'est très difficile quand on est en deuil, et je sais de quoi je parle, c'est très difficile quand on est en deuil de pouvoir organiser quelque chose qui va me contenir et me cadrer suffisamment et qui va pouvoir rester, quand je serai plus dans ce moment-là, comme un moment qui a été important et plein. Et dans ce sens-là, la grande difficulté aujourd'hui, c'est que tout le monde fait des rituels. Des rituels, alors ça, oui, c'est individuel, mais tout l'aspect du rite symbolique et communautaire manque complètement parce qu'on est mal à l'aise avec ça. Et c'est pour ça qu'il faut réfléchir à ça. Alors c'est pour ça que nous on réfléchit à ça. D'autres gens le font aussi. En ce qui me concerne, je me dis, mais il faut vraiment qu'on retrouve un chemin vers le rite. Alors qu'on adapte le rite à la sensibilité actuelle, parce que ça va être quelque chose de très important vu que l'individu aujourd'hui il est à vif par rapport à tout ça. Mais qu'on retrouve les fondamentaux du rite et qu'on adapte leur forme à la sensibilité d'aujourd'hui. Ça, c'est très important.
Comment on fait, Alix Nob-Burnand, pour à la fois inventer des rites qui correspondent à notre sensibilité et pour que ces rites parlent à un collectif qui soit pas simplement lié à mon propre goût pour les petites fleurs, les livres, voilà. Je sais pas quoi. Ouais.
Ou la petite musique, etc. Alors, on peut pas les inventer. Je crois que vraiment que le rite ne s'invente pas. C'est pour ça qu'il y a en ce qui me concerne, ça a été un gros boulot d'essayer de repérer quels sont les rites transversaux parce que les anthropologues nous aident pour ça. Donc, on comprend un certain nombre de choses. Les rites sont les mêmes partout. Ce qu'on va simplement faire, c'est adapter leur forme, c'est ça. Mais le fond même du rite, non, on le change pas. C'est le même depuis des siècles et des siècles. L'humain s'est formé s'est fondé en inventant les rites. C'est à ça que les anthropologues reconnaissent l'arrivée de l'humain, c'est les nécropoles. Donc, tout le traitement du mort, de la communauté, de l'endeuillé, de ce qu'il doit faire, les codes, tout ça, c'est ça qui a fait des hommes, des humains. Donc, du coup, on repère les fondamentaux et ils bougent pas, finalement. Alors, on va adapter leur forme.
Vous avez un exemple de ces rites qu'on a un peu adaptés, mais qui sont vraiment liés à des racines très profondes chez l'humain?
Ben, par exemple, le corps du mort, ou pour les pertes, ça c'est pour les gens, mais par exemple, le passage à la retraite ou des choses comme ça, identifier qu'est-ce qui est fini. Qu'est-ce qui est mort? C'est quoi qui est fini? Et une fois que on sait ce que c'est, alors quand c'est un mort, c'est plus facile, l'honorer. Ça veut pas du tout dire l'aimer ou dire qu'il était extraordinaire. C'est pas parce que je quitte un métier après 50 ans de bons et loyaux services que c'était génial ou que c'était affreux, mais honorer ce qui a été vécu.
Faire mémoire.
Avant de faire mémoire, c'est honorer. C'est repérer. Ben on le fait avec le corps du mort. On le rend beau. Enfin, on lui donne une place. On lui donne une place. C'est peut-être ça ce que le rite permet, c'est de donner à ce qui est fini une place.
On va continuer à parler de rituels autour du deuil cette fois avec vous Alex Noble-Burnand après un très beau titre qui pourrait tout à fait avoir sa place dans une cérémonie de funérailles.
Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels. Pourquoi es-tu parti avant que je te l'apprenne? Le savais-tu déjà? Avais-tu deviné que des dieux se cachaient sous les faces avinées? Mortel, mortel, nous sommes immortels. Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels. As-tu vu ces lumières, ces pourvoyeuses d'été? Ces leveuses de barrières, toutes ces lampes épuisées, les baisers reçus, savais-tu qu'ils duraient? Quand se mordant la bouche, le gluant revenait. Mortel, mortel, nous sommes immortels. Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes mortel. As-tu senti parfois que rien ne finissait et qu'on soit là ou pas, quand même on y serait? Et toi, toi qui n'es plus là. C'est comme si tu étais plus immortel que moi. Mais je te suis de près. Mortel, mortel, nous sommes immortels. Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels. Mortel, mortel, nous sommes immortels. Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels.
Immortel Alain Bashung, on parle ce matin dans Tribu des nouveaux rituels autour de la mort avec vous, Alix Noble-Burnan. Alors, il y a certes la cérémonie de funérailles, mais il y a aussi toute la suite, tout le deuil. Et là aussi, on est passablement démuni. On se rappelle des récits d'autrefois où il fallait s'habiller en noir. Aujourd'hui, on a l'impression que la société ne nous aide pas vraiment. Il faut vite retourner au boulot, faut pas trop embêter tout le monde avec ça. Est-ce que vous partagez ce constat ?
Oui, ce que je vois surtout aujourd'hui, c'est que comme individu, on est complètement perdu quand le deuil arrive ou pas. Hein, ça dépend. Beaucoup de gens ont l'impression que tout va bien, et puis c'est 3 mois ou 1 an après qu'ils se ramassent, qu'ils se prennent la porte dans la figure. Donc là, c'est important aussi de voir qu'il y a des différences énormes entre les individus et qu'on n'est pas on n'est pas pareil. Maintenant, il y a quelque chose au niveau de notre société aujourd'hui qui fait que on a tant de l'aide de la société. Hein. On a tant d'être pris en charge par la société. Ce qui est juste, parce que c'est vrai que quand je suis en deuil, je suis pas capable de continuer à travailler. Il y a vraiment un arrêt et un manque d'énergie. C'est important à dire ça, que le deuil va susciter une énorme fatigue, que je peux pas m'occuper de mon hémorragie interne, parce que c'est ça, la perte, et être adéquat et pouvoir faire des projets, et être dans une compétence professionnelle. Donc c'est normal de pouvoir être un peu en panne, on va dire. Par contre, être complètement pris en charge par la société, être victimisé par le deuil, moi, ça, je dis non. Mais ça ne regarde que moi. Hein. Je suis fâchée contre cette façon, quand on est endeuillé, de devenir une victime et d'être passif. C'est pour ça que j'étais tellement contente quand je suis tombée sur un bouquin d'un anthropologue qui parlait de deuilleur à la place d'endeuillé. Et je me suis dit, voilà, c'est ça, deuilleur. Quand ça m'arrive à moi. Et je vais devoir bosser. Et oui, c'est vraiment quelque chose qu'on ne souhaite pas vivre. Et en même temps, c'est quelque chose que je suis la seule personne à pouvoir traiter. Enfin, il y a que moi qui peux travailler là-dessus. Les proches sont extrêmement mal à l'aise quand on vit un deuil parce qu'ils ne savent pas que faire. Ils ne savent pas comment m'aider. Ils essayent d'être là. Moi, je me sens seule. C'est une expérience qu'on fait où on découvre la véritable solitude. C'est vrai qu'on est tout seul. Et on ne peut pas attendre d'une société ou de proches de nous sortir de cette solitude. Ils peuvent être là, présents, épaulés, accompagnés. La société et mon travail va me proposer une structure dans la réalité. C'est important que je retourne travailler. C'est important que je reste ancré ou actif dans la société. Pas tout de suite, peut-être. Mais je vais y retourner. Je serai peut-être pas follement compétent. C'est normal. Mais ce travail, je dois le faire. Et c'est important que je reste en contact avec la réalité aussi.
Beaucoup de personnes endeuillées, j'utilise l'ancienne expression de deuilleurs, comme vous dites, vont se tourner finalement vers un psy pour recevoir de l'aide. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Parce que c'est pas une maladie psychique, un deuil.
Alors, je me réjouis beaucoup de la conférence de François Robert, psychologue, qui va parler de ça justement. Faut-il vraiment un psy quand on est en deuil? Alors, c'est typique, le psy a remplacé le prêtre. Aujourd'hui, quand on se sent pas bien, on va chez le psy. Et du coup, ça reste cette idée d'endeuillé, d'attendre de l'aide. Alors, certains endeuillés ont besoin d'un psy. C'est-à-dire que le deuil va venir réactiver ou mettre à jour un problème d'attachement, mais qui était là avant le deuil. Hein. Pour la plupart des gens, non, il n'y a pas besoin de psy. Par contre, il y a besoin de s'occuper de ce qui va se passer. Ça va être long. J'aurai l'impression de complètement être englué. C'est normal. Et on a au fond besoin de dire oui, c'est normal ce qu'on vit. Il y a le deuil, mais il y a les pertes. Hein. Il n'y a pas que la mort. Il y a la faim. Et aujourd'hui, dans notre société, on a une peine énorme à se séparer. Le problème est là. On ne se sépare plus.
Vous-même, vous proposez un rituel pour ces périodes de deuil. Vous proposez des bracelets de deuil. Mm-hmm. C'est quoi ça?
Alors, le bracelet de deuil, c'est justement devant le fait qu'on n'a plus de signaux qui fait que les gens qui me côtoient ne savent pas que je suis en deuil. Donc, je fais quoi? Je vais le leur dire. Ah, ça, c'est affreux. Alors, bonjour. Comment ça va? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Tu vas bien? Je fais quoi? Je dis, je dis pas. Si je dis, ça va être la cata. Si je dis pas, je vais avoir un bout de moi qui est pas là. Les signes de deuil étaient intéressants pour ça, parce qu'on n'avait pas besoin d'en parler, ça se voyait. Donc du coup, le bracelet est un signe de deuil qui peut se voir. Et puis surtout pour moi, l'endeuillé, c'est le signe pendant une année que je vais devoir traverser des moments très difficiles. Et au fond, à chaque moment difficile que je vais traverser, qui va dépendre de chaque personne, je vais le signaler par une perle. Et au fond, ça reprend l'idée à la fois du doudou et puis du chapelet. Parce que à mon poignet, le temps se marque. La difficulté quand on est en deuil, c'est qu'il n'y a plus de temps. On est vraiment dans une espèce de maintenant qui se répète, qui est glauque, qui est est-ce que ça sera fini une fois? Alors non, ça sera pas fini, parce que le deuil se traverse toute sa vie. Mais la première année va se marquer avec ce bracelet de deuil.
Et puis qu'est-ce qu'on en fait, ouais, justement?
Alors, à la fin, on le coupe. Au début, je disais, on l'ôte et on le met là, à l'endroit de la sépulture. Puis après, je me suis rendu compte que ça allait pas. Il faut le couper, parce que mon statut d'endeuillé, il doit pas devenir une identité. Donc, c'est normal que la première année soit difficile. Et du coup, je vais marquer ces étapes. Ensuite, à la fin de l'année, je vais faire un rite de levée de deuil. C'est-à-dire que je coupe ce bracelet. Le lien, je vais le mettre, si je le souhaite, à l'endroit de la sépulture ou du signe. Et je garde les perles et je m'en fais un bijou. Parce qu'au fond, ça, je l'ai fait. J'ai fait la première année. C'est ça, la notion de deuilleur. C'est le côté actif. Je l'ai fait.
Et ça devient un bijou, c'est fort
c'est
quand même comme
bijou.
Symbole.
Ah oui, c'est vraiment, moi j'appelle ça une décoration de guerre. Qu'est-ce que c'est dur, c'est le premier Noël, mais c'est épouvantable. La première anniversaire de l'anniversaire de la mort, vraiment, c'est une course d'obstacles, cette première année. Eh ben, je vais le traverser, je le manifeste et je m'en fais un bijou après.
On l'a annoncé en début d'émission, vous êtes la co-organisatrice d'un festival, le Toussaint Festival, 4e édition.
Oui,
ça marche. Ça répond à une attente.
Ah oui, ça répond à une attente, oui. Oui, oui, vraiment. Alors, et puis, on se heurte à une difficulté parce que la société n'a pas envie. Quand on dit, quoi, un festival pour la Toussaint, mais c'est horrible. On sait qu'il va falloir quand même, mais on espère bien qu'il va faire sa place. Oh, il est en train de la faire.
C'est vrai qu'on peut tester des cercueils?
Oui, on peut tester des cercueils.
C'est glauque, ça.
Non, pas du tout.
Non?
On peut tester des cercueils. Oui, oui, on encourage beaucoup. Et je crois que ceux qui testent des cercueils auront une petite récompense après.
C'est-à-dire, ils se couchent, etc.
Voilà. C'est une expérience assez bizarre à faire. Ça se fait beaucoup dans d'autres pays, hein. En Corée,
oui,
par exemple, ça se fait, oui. Des gens qui ont fait des tentatives de suicide, on leur propose de faire une session, oui. Où on, non seulement ils essayent les cercueils, mais ils restent dans les cercueils pendant 20 minutes.
Parce qu'on se dit justement pour des personnes qui ont des pensées suicidaires, ça peut être contre-productif.
Alors je sais pas, il faudrait développer un peu ça.
Assez étonnant. Ouais. Vous-même, vous allez proposer des contes puisque vous êtes conteuse, des contes pour adultes. Pourquoi est-ce qu'ils sont importants ces contes en lien avec la mort, avec la séparation?
Alors c'est important de penser la mort et la séparation. C'est important de voir ce qu'on peut faire justement pour les rites. Puis il y a tout le côté émotionnel du ressenti et les contes sont idéaux pour ça. Parce que ça raconte des histoires auxquelles on peut qu'on peut rêver justement. Ça met en marche beaucoup de choses à l'intérieur de soi. Et puis c'est un moment agréable, communautaire et confortable.
Les personnes qui viennent là, c'est des personnes qui sont confrontées au deuil ou
qui viennent au festival?
Au festival, ouais.
Ou alors faudrait leur poser la question. Je pense qu'il y en a certains. Il y a aussi beaucoup de gens que ça intéresse.
Simplement. Il y a vraiment une curiosité, un intérêt.
Mais oui,
pour ça.
Les ouais. deux choses dont je suis sûre, c'est que je suis née et que je vais mourir. C'est important d'en parler. Et puis, c'est pas sinistre. Vraiment, c'est pas sinistre. On peut mettre un peu du rire là-dedans.
Vous-même, d'ailleurs, vous m'avez confié tout à l'heure que vous allez bientôt remplir vos directives anticipées.
Oui, je vais mardi. Non, je vais aller rencontrer les responsables des pompes funèbres avec lesquels dont je veux qu'ils s'occupent de moi. Et on va aller avec mes fils. Et je me réjouis beaucoup de voir ce qu'ils vont proposer. Il paraît qu'ils ont des petites urnes en feutre. Ah.
Merci en tout cas beaucoup Alix Noble-Burnand d'avoir passé cette demi-heure avec nous. Je rappelle que vous êtes formatrice d'adultes, conteuse et thanatologue, et puis également vous êtes une organisatrice, je vais y arriver, du prochain Toussaint Festival qui va se tenir le week-end prochain à l'espace culturel des Terreaux. On trouve plus d'informations sur internet évidemment.
Ou sur le site du toussaintfestival.ch, oui tout à fait.
Merci beaucoup à Céline Zuffray, notre attachée de production pour cette émission Tribu, ainsi qu'à Nathalie Schoenberg qui a programmé les musiques de toutes ces émissions, et puis à Sophia Muller qui était en régie avec nous aujourd'hui. Si vous souhaitez réécouter certaines de ces émissions, vous pouvez vous rendre sur notre site rts.ch/tribu. Et puis si vous souhaitez aussi réagir, n'hésitez pas à nous écrire à notre adresse tribu@rts.ch. Lundi, à cette même place, vous aurez le plaisir de retrouver Julien Magnolet qui recevra Philippe Delerme pour parler de nos gestes et de ce qu'ils disent de nous. Et puis, si cette émission autour de la mort vous a donné le besoin de décompresser, ben restez à l'écoute de la première, puisque tout de suite, c'est Laurence Bizan qui vous attend pour un best-of des décodeurs. Très bon week-end à vous tous.
Tribu, Catherine Erard.